الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue ces paroles ou l'explication de ces paroles prises du livre Al-Fawaid du grand savant, de l'éminent savant Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Le cours précédent et celui également qui a précédé, on a parlé d'une question qui était très importante à connaître et à savoir. Et on a vu qu'à travers cette question, qui va être développée et qui va être argumentée par Ibn al-Qayyim, on va s'apercevoir des bases au niveau du dîn, de bases qui sont importantes à comprendre au niveau de la religion, que ce soit par rapport à la croyance et autres. Et cette question-là, c'est « Tarkul awamir a'zamu min fi'l al-manahi ». Donc délaisser une obligation, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, délaisser cela est plus important, est plus grave donc. Donc « a'zam » dans le sens qui est plus grave « min fi'l al-manahi » que faire un acte qui est interdit, une interdiction, de faire ce qui est illicite. Et on a vu que le cheikh, il a développé ce sujet à travers plusieurs points d'argumentation. On a pris les plus importants et on va continuer car il y a encore des bases à connaître et des points d'argumentation qui vont nous éclairer sur beaucoup de choses et notamment sur des points de la croyance. Il dit Ibn al-Qayyim parmi donc ces points d'argumentation, أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال أو عشرة أمثال فعلها. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé, il a donc déterminé l'accomplissement et donc la récompense qui va être due à cet accomplissement de ce qui est obligatoire, donc on est bien dans l'obligation, une équivalence de 10 fois cet acte-là. Donc celui qui va faire un acte qui rentre dans l'obligation, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner 10 fois la récompense de cet acte même, multiplié par 10. Alors que يقول الشيخ وجزاء المنهيات مثلاً واحداً مثلاً واحدا وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه ولو كان الأمر بالعكس لكان السيئة بعشرة لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. Le cheikh donc va nous dire ensuite que celui qui va faire une mauvaise action, qui va tomber donc dans une interdiction, il aura donc comme châtiment, comme punition, qui va être la conséquence, qui va être la conséquence donc de cet acte-là, ce qui équivaut à cet acte même, c'est-à-dire donc un seul châtiment, ou ce qui est équivalent exactement à cette interdiction pour ce qui est du châtiment, contrairement donc à ce qui était de l'acte de l'obligation. Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim, que cela est bel et bien une preuve que faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné est plus aimé auprès de lui subhanahu, que délaisser ce qu'il a interdit. Et il nous dit ici ça aurait été le contraire, c'est-à-dire que si faire une interdiction était pire que délaisser une obligation, alors au niveau des comptes ça aurait été également inversé, c'est-à-dire que on aurait eu pour une mauvaise action, ce qui équivaut à 10 fois cette mauvaise action en rétribution, comme châtiment. Allah al-Musta'an. Et pour ce qui est de l'hasana, on aurait eu donc une seule hasana, ou plutôt une seule équivalence. Ou alors, elles auraient été de part égale par rapport donc à la rétribution. Et on voit bien qu'ici, ce n'a pas été le cas, d'après beaucoup de nusus du Coran et de la sunna, qu'Allah Azzawajal, il multiplie la bonne action, qui multiplie ce qui est fait comme obligation. Alors que pour ce qui est de l'interdiction, Allah Azzawajal, il ne rétribue que ce qui est équivalent. Et ça donc, c'est une argumentation qui est forte pour nous prouver encore et de manière explicite que délaisser l'obligation est pire que faire l'interdiction. Également, un point d'argumentation qui va ici être essentiel à comprendre et qui va revenir à une compréhension d'un point de l'aqida, de la croyance, et de la croyance en Allah, al-imanu billah subhanahu wa ta'ala. On va voir qu'on va rentrer ici même dans les attributs d'Allah azawajal pour comprendre cette question-là. Et pour prouver donc l'importance de ce point et voir comment même à partir donc des attributs d'Allah azawajal, on va comprendre que délaisser l'interdiction, ou plutôt délaisser l'obligation, est pire que faire l'interdiction. يقول ابن القيم أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته. Faut déjà comprendre ce premier point. C'est-à-dire que faire ce qu'Allah Azza wa Jal il aime, subhana, l'acte qui est aimé par Allah et l'aide qui va être donnée pour donc accomplir cet acte-là. Et la récompense, وجزاءه, et sa récompense, et tout ce qui va donc s'accumuler, qui va donc être le résultat de cet acte-là, comme madh, comme thana, comme éloge, etc., ça fait partie min rahmati, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc on rentre bien ici dans un sifat, une sifat illah Azzawajal. Waya ar-rahma, hiya ar-rahma, c'est la miséricorde. Ça c'est la première chose. Tout cela donc, le fait qu'Allah Azzawajal il aime cet acte-là, l'acte qui est aimé par Allah Azzawajal et qui l'aide, et sa récompense, la récompense de cet acte-là, et tout ce qui va en résulter, ça fait partie de sa miséricorde. Min rahmati. Ensuite, et dans un sens qui va être opposé, wa fi'la ma yakrahu wa jaza'ahu wa ma yatarattabu alayhi min al-dham wal-alim wal-iqab min ghadabi min ghadabihi. Par contre, l'acte qu'Allah Azzawajal déteste et son châtiment, sa rétribution et tout ce qui va en résulter donc comme blâme, comme châtiment, etc., alors il faut savoir que cela vient de sa colère. C'est donc le résultat de sa colère, subhanahu wa ta'ala, min ghadabi. Et on sait que le ghadab inda ahli sunnati wal jama'a, auprès des gens de la sunna et du consensus, ça fait partie de ses sifat, ça fait partie des attributs d'Allah Azzawajal qui ont été attestés par son prophète subhanahu wa ta'ala, et dont Allah Azzawajal a attesté pour lui-même, subhana. Si on a bien compris ces deux choses, on va revenir ici lorsqu'on connaît ces deux attributs et qu'on sait qu'on les atteste comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir que il y a une règle ici dont Allah Azzawajal a prescrit ou s'est prescrit sur lui-même, et qui va être ici traduit dans la parole de Ibn al-Qayyim, wa rahmatuhu sabiqatun ala ghadabi wa ghalibatun lah. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah Azzawajal va précéder sa colère, et elle va prendre le dessus sur sa colère. Et on sait, et on revient à cela, un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, min hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prescrit sa miséricorde, et que cette miséricorde devance ghadabu, c'est-à-dire donc sa colère. Et ensuite il dit wa kullu ma kana min sifati ar-rahma فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فإنه ليس من لوازم ذاته ولا يكون غضبانا دائما غضبا لا يتصور انفكاكه بل يقول رسله وأعلم الخلق بي يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Ici, Ibn al-Qayyim, donc, il va rentrer dans cette question de croyance et qui incombe à tout musulman de connaître et d'avoir la certitude en cela, que cette rahma, cet attribut, donc, précède et prend le dessus sur el-ghadab. Et on a vu que la rahma, cette miséricorde d'Allah Azzawajal, elle avait pour résultat qu'Allah Azzawajal va aimer un acte et qu'il va aider par rapport à cet acte-là son serviteur et qui va lui donner une récompense et ensuite tout ce qui va en résulter comme madh, comme thana, comme éloge, etc. ça fait partie de sa rahma. Et donc cette rahma, on va voir que elle est ici en relation avec al-ma'mourat, avec ce qui est obligatoire. Et pour ce qui est de son contraire, c'est-à-dire donc faire ce qui est interdit et donc ce qui va en résulter comme dham, comme iqab, donc comme blâme, comme châtiment, ça revient à son rabab, ça revient donc à la colère d'Allah Azzawajal. À ce moment-là, subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre son serviteur, ce qui a eu pour résultat donc ce châtiment. Wallah al-musta'an. Et lorsqu'on sait donc que cette rahma, elle prend le dessus sur ce radab, et que, subhanahu wa ta'ala, et là c'est un point également qui est important de la croyance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de manière continuelle qualifié par cet attribut, ar-rahma. Donc, la yakunu illa rahiman, comme dit le shir. Allah azza wa jal n'est, Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, est toujours et continuellement rahima, c'est-à-dire donc très miséricordieux. Wa rahmatuhu min lawazim dhatihi. Et ici, Ibn al-Qayyim, il va faire donc allusion à ce que on doit savoir par rapport à une des règles des noms et des attributs, et plus précisément les attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est que les attributs se divisent en deux catégories, comme on l'a vu et comme on l'a expliqué cela plusieurs fois dans des cours précédents. Les attributs se divisent en deux catégories suivant un aspect bien précis et qui est ce qu'on appelle as-sifatu dhatiya ou as-sifatu fi'liya. Donc des attributs qui vont être propres à l'entité d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle sifatun dhatiya. Et pourquoi on dit dhatiya? Al-dhat, c'est donc l'entité. Al-dhat, c'est l'entité. Et c'est pour ça donc que l'on dit qu'il y a des attributs qui sont propres à l'entité divine, qui sont propres à l'entité d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et pour simplifier au maximum la compréhension de cette catégorie d'attributs, ce sont tout simplement des attributs dont Allah Azza wa Jal est continuellement qualifié. Lorsqu'on dit Rahiman, Allah Azza wa Jal dit de façon continuelle qu'il est très miséricordieux. Qu'Allah Azza wa Jal est continuellement très miséricordieux. Et que le fait qu'il soit très miséricordieux ne va pas revenir à sa volonté. Ne va pas revenir à quoi ? À sa volonté. C'est pour ça que cette rahma, miséricorde, va rentrer dans cette catégorie au même titre que les différents attributs que Ibn al-Qayyim a cités. Comme par exemple l'ilm, comme par exemple la science. On sait que la science, Allah Azza wa Jal, il est continuellement qualifié comme étant savant ou très savant, aliman, comme étant donc, et qu'on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal, il est savant quand il veut. C'est pas possible. Et ça va être donc ici la différence avec la deuxième catégorie, et qui est donc as-sifatu al-fi'liya, qui est donc les attributs qui sont propres à l'acte divin. Les attributs qui sont propres à l'acte divin, la sifatul fi'liya. Donc on voit qu'ici, pour ce qui est de l'ilm, c'est un sifatun dhatiya, donc un attribut qui est propre à son entité. Pourquoi ? Parce que cet attribut ne peut se séparer de l'entité divine. Donc Allah Azzawajal est continuellement savant, et qu'il sait continuellement toutes choses, qu'il a la science de toutes choses continuellement, subhanahu wa ta'ala. De même pour ce qui est de sa qudra, de même pour ce qui est de sa puissance. Allah Azzawajal, il est puissant à tout moment et de façon continuelle. Et donc on ne revient pas ici à la volonté d'Allah. Et on dit Allah Azzawajal, il a la toute puissance s'il veut et quand il veut. Quand il veut. Là, on ne revient pas ici à sa volonté. Donc ça va être également une des différences qu'il y aura à faire avec As-Sifatul Fi'liya, les attributs propres à l'acte divin, qui eux sont soumis à la volonté d'Allah Azzawajal, qui eux reviennent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même sa vie, ça c'est également un attribut qui est propre à l'entité divine. Allah Azzawajal, il est continuellement vivant, et cette vie là ne dépend pas bien entendu de sa volonté. Pour ce qui est de Sam'a, de même pour ce qui est donc de l'ouïe, de l'audition d'Allah Azzawajal également. Allah Azzawajal, il entend tout le temps, c'est pas il entend quand il veut, il entend tout le temps subhanahu wa ta'ala. Donc il est Samia, il est donc le très entendant, et ça de manière continuelle. De même Wabasarihi, c'est à dire donc sa vue, de même Allah Azzawajal, il voit de manière continuelle subhanahu wa ta'ala, de cette vue qui est bien entendu absolue. Et on revient également aux autres règles qu'on avait déjà vu et déjà expliqué par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal, et qui, donc, lorsqu'on atteste un attribut, on l'éloigne de tout ce qui rentre dans le domaine du défaut et de l'imperfection. Allah Azzawajal, il a une vue, mais cette vue-là, elle est parfaite, elle est absolue. Et rien ne rentre comme imperfection ou défaut pour ce qui est de cet attribut et de tous ses autres attributs. Et donc, Allah Azzawajal, il est unique quant à sa vue. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique quant à sa vue, et que personne ne lui ressemble dans cet attribut comme personne ne lui ressemble dans les autres attributs subhanahu wa ta'ala. Wa ihsanihi, et également la bienfaisance qu'Allah Azzawajal fait. Allah Azzawajal yuhsin, Allah Azzawajal, il fait donc bienfaisance par rapport à ses attributs, ça de façon continuelle. Donc on a compris la première catégorie, et cette première catégorie qui est donc as-sifatu dhatiya, qui sont donc les attributs ou l'attribut qui est propre à l'entité divine. Et parmi ces attributs, donc, Ar-Rahma. Par contre, pour ce qui est de Al-Ghadab, donc on a ici une autre catégorie d'attributs. Pourquoi ? Parce que cet attribut-là, et qui est la colère, va rentrer dans l'autre catégorie, et dans la deuxième catégorie qu'on a citée, et qui est donc As-Sifatul Al-Fi'liya. Al-Fi'liya. Donc, on avait dit les attributs qui sont propres à l'acte divin. Les attributs qui sont propres à l'acte divin. As-sifatul fi'liya. Donc maintenant, pour bien comprendre la différence qu'il va y avoir entre les deux, même si on a déjà mis l'accent dessus, c'est qu'Allah Azzawajal, il a également des attributs. Mais ces attributs-là, ils sont soumis à sa volonté. Ils dépendent de la volonté d'Allah Azzawajal. Et donc, à partir de là, on ne pourra qualifier Allah Azzawajal de manière continuelle de par cet attribut-là. Donc c'est bel et bien une différence qu'il y a ici entre ce qu'on a vu dans la première catégorie qui sont As-Sifatul Dhatiya. As-Sifatul Fi'liya, ces attributs propres à l'acte divin, comme Al-Ghadab, comme l'exemple qu'on a donc ici, et dont on est en train de parler, et dont Ibn al-Qayyim argumente à partir de là pour nous prouver donc encore ce point qu'il a avancé en tout début de ce paragraphe. Al-Ghadab, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azzawajal, il est continuellement en colère? Ça, c'est impossible. فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ comme il nous dit Ibn al-Qayyim. C'est impossible dans le droit d'Allah Azzawajal. Allah, il est en colère suivant sa volonté. Et par moment, subhanahu wa ta'ala, lorsque son serviteur rentre dans le péché, et lorsqu'il donc, s'il veut, il le châtie. Comme on avait vu, ce châtiment vient donc de sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et donc, sa colère, à ce moment-là, Allah Azzawajal, il est en colère envers son serviteur, c'est à ce moment et suivant sa volonté. Tayyib. Donc on ne peut pas dire qu'Allah Azzawajal il est en colère de manière continuelle. Il est en colère, subhanahu wa ta'ala, suivant donc sa volonté et non de manière continuelle. Donc ça c'est une différence qui est fondamentale à faire. Et pour bien comprendre donc les deux catégories des attributs d'Allah Azzawajal sous cet aspect bien entendu. Sinon, des catégories, il y en a encore d'autres, et sous d'autres aspects. C'est pour ça qu'il nous dit Ibn Qayyim qu'on ne peut s'imaginer qu'Allah Azzawajal serait en colère de manière continuelle. Et que ce radab, il ne pourrait se détacher d'Allah Azzawajal. Et c'est pour ça qu'il va donc nous rappeler ici une preuve de ce qu'il avance Ibn Qayyim lorsqu'il dit que cela fait bel et bien partie de ce qui est propre à son acte, Allah Azzawajal, et qui est donc propre à sa volonté. Ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, qui est en réalité hadith al-Shafa'a, qui est donc une partie du hadith al-Tawil al-Shafa'a, qui est rapporté par l'imam, ou qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, comme a fait Sahih al-Bukhari ou Sahih al-Muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, inna rabbi qad ghadib al-yawm, mon Seigneur a été en colère al-yawm, aujourd'hui. Donc à ce moment-là, Tayyib, donc suivant sa volonté, غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ, c'est-à-dire une colère qui n'a pas eu de précédent et qui n'a jamais été équivalent auparavant à cette colère. Une colère donc extrême. وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ, et jamais il ne sera plus en colère que ce jour-là. Ça c'est notre prophète qui nous informe cela de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Allah musta'an. Donc on voit bien ici que c'est bel et bien un acte ou que c'est bien sifat, donc un attribut, sifatun fi'liya, qui est propre donc à l'acte divin, qui va donc être propre à la volonté d'Allah Azzawajal. Et que ce radab, il est venu à un moment, tayyib, et qu'on ne peut donc qualifier Allah Azzawajal de manière continuelle. Et donc on va comprendre, et c'est donc ici le but de cette argumentation, que Ar-Rahma a pris le dessus, que c'est donc un acte, ou Arfwan, c'est donc un sifa, un attribut qui est propre à l'entité divine et qui a pris le dessus sur ce sifat qui est propre à l'acte divin, qui est le rabab, et qui l'a précédé. Donc à partir de là, cette rahma a été le résultat de cette récompense qui a été donnée à partir du moment où le abd a fait, où le serviteur a fait l'obligation. Alors automatiquement cette obligation est donc délaissée, dans son cas contraire, cette obligation va être pire que faire ce qui est interdit. Pourquoi ? Parce que ce qui est interdit va avoir pour conséquence le rabab, va avoir pour conséquence la colère d'Allah Azzawajal. Mais cette colère-là, qui n'est pas un sifa, qui n'est pas un attribut propre à l'entité divine, et qui va donc être précédée par Ar-Rahma, alors à ce moment-là, on va tout simplement comprendre que faire ce qui est interdit, c'est bien moins pire que délaisser ce qui est obligatoire. Également, il nous dit, Ibn al-Qayyim, وَرَحْمَتُهُ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ, c'est-à-dire que sa miséricorde, Allah Azzawajal, elle a englobé toute chose, alors que sa colère n'a pas englobé toute chose. وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِي الرَّحْمَةِ وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِ الْغَضَبِ, et Allah Azzawajal, comme il est cité dans le hadith, il a prescrit sur lui-même Ar-Rahma, donc la miséricorde, il n'a pas prescrit sur lui-même Al-Ghadab, c'est-à-dire donc la colère. Et c'est donc pour ça, et donc en conséquence, يقول ابن القيم ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب, c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, la miséricorde est plus aimée auprès de lui que le châtiment. Et donc le pardon est plus aimé auprès de lui que la vengeance. Et donc à ce moment-là, et à partir de là, on va donc en déduire que faire ou que délaisser l'obligation, ça va bel et bien être pire que faire ce qui est donc interdit. Et donc, en conséquence, Allah Azzawajal va préférer que l'on fasse donc cette obligation qu'on la délaisse par rapport donc à faire l'interdiction ou la délaisser. Et comme cela également on l'avait déjà expliqué auparavant, sous d'autres formes d'argumentation comme Ibn Qayyim l'avait avancé. Également un autre point qu'Ibn Qayyim développe. Et lorsqu'il nous dit que ce qui est en relation avec les interdictions, il dit Asra'u zawalan bima yuhibbu min zawali athari ou athari ma yuhibbu bima yakra'u. Il nous dit que les conséquences de ce qu'il a interdit sont beaucoup plus rapides à disparaître. Sont beaucoup plus rapides à disparaître. Asra'u zawalan bima yuhibbu par rapport à ce qu'il aime. Donc, ce qu'il déteste, Allah Azzawajal, et donc les conséquences que cela va avoir sont rapides à disparaître. Sari'atu zawal. Wa qad yuziluha subhanahu bil 'afwi wat tajawuz wat tajawuz. Et donc Allah Azzawajal, il les fait disparaître même de pardon, son pardon, et lorsque il délaisse donc le châtiment par rapport à cet acte-là. وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة. Et également on sait que cela, le fait d'avoir fait un acte interdit, ce qui va en être le résultat, disparaît également بالتوبة, donc de par le repentir. Al-istighfar, cette dua, le fait de demander pardon à Allah Azzawajal. Également l'a'mal saliha, les actes pieux, les actes bons qui font eux disparaître les mauvaises actions. Et également al-masa'ib al-mukaffira, également donc les épreuves qu'Allah Azzawajal fait subir à l'homme dans cette vie d'ici-bas et qui ont pour résultat d'expier ses péchés, comme la maladie, comme la fatigue, etc. Tout ce qui rentre dans al-masa'ib, tout ce qui rentre donc dans les épreuves. Et comme il nous dit, وَالْحَسَنَةُ يُذِبْنَ السَّيِّئَاتِ, et donc les bonnes actions font partir, font disparaître les mauvaises actions. Et qu'Allah Azzawajal, comme va ensuite développer Ibn Qayyim, qu'Allah Azzawajal, il pardonne, même si ces dhunoub viennent à être plus grands qu'une montagne. Allah Azzawajal, il peut pardonner, subhanahu wa ta'ala. En revenant donc à sa rahma, subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, on va voir que les conséquences de cela vont être moindres que les conséquences d'avoir délaissé ce qui va être obligatoire. Tant bien entendu, Allah Azzawajal pardonne, tant bien entendu que la personne n'est pas rentrée dans ce qui est du shirk, dans ce qui est de l'associationnisme. Également, une autre argumentation que Ibn al-Qayyim avance, c'est qu'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, il a prescrit ce qui va le mettre en colère, ce qu'il déteste, parmi donc les interdictions. Car on sait que rien ne sort de la volonté d'Allah Azzawajal et que rien ne sort de ce qu'Allah Azzawajal il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Et il a prescrit toutes choses et rien ne sort donc de son royaume et rien ne sort donc de sa volonté. Tout a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à même ce qui va le mettre en colère, jusqu'à même ce qu'il déteste, parmi donc les interdictions. Et ici Ibn Qayyim va nous expliquer que rien n'est plus aimé auprès d'Allah Azzawajal, et en se référant bien entendu à une preuve de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'est plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que at-tawbah, que le repentir du serviteur. Le repentir par rapport donc à l'interdiction qu'il a faite. Et on sait dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, min hadith Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul Lillah aw Allahu ashaddu farahan bi tawbati ahadikum min ad-dallati yajidwa ar-rajulu bil ardi al-falat. Qu'Allah Azza wa Jal se réjouit encore plus du repentir d'un d'entre vous, d'une personne d'entre vous, que l'esclave se réjouit lorsqu'il retrouve sa monture qu'il avait donc perdue dans un désert. Subhanallah. Regardez comment la personne, lorsqu'elle va perdre cette monture dans un désert et qu'elle porte nourriture et boisson, est-ce qu'il va le sauver de ce désert aride lorsqu'il l'a perdue et des heures à attendre et à la chercher jusqu'à que la personne désespère et qu'ensuite elle trouve devant elle cette monture? Comment elle va être le farah? Comment elle va être cette joie? Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, qui lui a un attribut et qui est le farah, qui est donc la joie, et cet attribut donc n'a aucune comparaison ou ne peut être comparé à la joie de cette personne-là, cette joie-là va être immense et va être encore plus grande que la joie de cette personne-là. Subhanallah. Regardez donc comment Allah Azza wa Jalla il aime la tawba. Regardez donc comment, subhanahu wa ta'ala, il va aimer cette tawba, il va accepter cette tawba de son serviteur. Bien entendu, ça revient à lorsqu'il a fait donc une interdiction, il est tombé dans une interdiction. Donc regardez également ici l'une des preuves de la sunna qui vient nous faire prendre conscience que délaisser ce qui va être obligatoire, c'est bien pire que faire ce qui est interdit. Car faire ce qui est interdit, ça peut disparaître. Et ça peut disparaître très vite. Et donc de par cette tawba. Et que cette tawba-là, c'est ce qui est le plus aimé auprès d'Allah Azzawajal. C'est ce qui est aimé le plus auprès d'Allah Azzawajal. Cette tawba-là qui est en réalité, en elle-même, un acte. Comme ensuite on va le voir. Pour comprendre réellement qu'est-ce que la tawba, qu'est-ce que se repentir. Non par rapport à sa définition même, par rapport à ses conditions, mais par rapport à sa nature même. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il va supposer ce qu'on pourrait donc reprocher à cette argumentation. Il va dire « فَإِنْ قِيلْ إِنَّمَا فَرِحَ بِالتَّوْبَةِ لِأَنَّهَا تَرْكُ لِلْمَنْهِ فَكَانَتَ الْفَرَحْ بِالتَّرْكِ » Donc ici on est bel et bien donc par rapport à la question de délaissement et par rapport à la question d'acte, de faire donc l'acte. Et donc on pourrait se poser la question, on pourrait peut-être dire pour répondre à cette argumentation que lorsqu'il y a eu la tawba et que donc Allah Azza wa Jal s'est réjoui du repentir de son esclave et s'est réjoui parce qu'il a délaissé ce qui était interdit. Il y a donc eu le délaissement ainsi de ce qui était interdit. Donc on est bien ici dans la question du délaissement. Taïb, donc d'un délaissement. Pour revenir donc ici à ce qui va être délaissé comme obligation. Fakana al-farah bitark. Donc à partir de là, la joie d'Allah Azza wa Jal qu'il a eue, c'était par rapport à un délaissement. Comment regarder comment il va répondre Ibn al-Qayyim et comment il va nous faire comprendre la nature même de cette tawba, de se repentir. يقول ليس كذلك donc ce n'est pas comme on pourrait le comprendre. فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح, c'est-à-dire que le délaissement, le pur délaissement, le délaissement unique, simplement ce délaissement, il n'implique pas donc هذا الفرح, il n'implique pas donc cette joie d'Allah عز وجل. بل ولا الثواب ولا المدح, il nous dit même pas donc la récompense et même pas donc l'éloge. وليست التوبة تركا وإن كان الترك من لوازمها, il nous dit en réalité que la tawba ce n'est pas un délaissement. La tawba, le repentir ce n'est pas en réalité le délaissement. وليست التوبة تركا وإن كان الترك من لوازمها, et même si on sait que le délaissement, donc délaisser l'interdiction, délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal nous a rendu illicite, ça fait partie de ce qui doit être fait pour pouvoir concrétiser donc cette tawba. Et il nous dit wa inna ma hiya fi'lun wujudi yatadammanu iqbal at-ta'ib 'ala rabbihi wa inabatahu ilayhi wa iltizama ta'atihi wa min lawazim dhalika tarku ma nuhi 'anhu wa li hadha qala ta'ala wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Donc ici Ibn al-Qayyim va nous faire prendre conscience que en réalité la tawba c'est un acte que l'on va faire. Et c'est un acte qui va donc comprendre Al-Iqbal, Iqbal al-Ta'ib, que celui qui va se repentir, il va s'en remettre à Allah, il va se diriger vers Allah Azzawajal, en demandant le pardon, que ce soit donc de par son cœur, que ce soit de par sa langue, que ce soit de par ses gestes. Wa iltizam ta'ati, et donc ensuite accomplir, et de façon résolue et de manière continuelle, son obéissance. Et bien entendu, wa min lawazim dhalika, et bien entendu, pour que cela soit concrétisé, il va falloir qu'il délaisse ce qui était interdit. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit wa anistaghfiru rabbakum, c'est-à-dire donc demandez le pardon à son Seigneur ou à votre Seigneur. Thumma tubu ilay, et ensuite donc tubu ilay, ensuite repentez-vous à Allah Azza wa Jal. Donc on voit bien ici l'istighfar, on voit bien ici la demande de pardon, on voit bien ici que l'on revient à Allah Azza wa Jal. Fattawbatu ruju'un mimma yakrahu ila ma yuhib. Et donc cette tawba, c'est en réalité revenir de ce qu'il détestait à ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Walisat mujarrad at-tark, et ce n'est donc pas uniquement et simplement, sans rien d'autre, un délaissement. Là. Fa'inna man taraka dhanba tarkan mujarradan wa lam yarja' minhu ila ma yuhibbu ar-rabbu ta'ala lam yakun ta'iban. Fat-tawbatu ruju'un wa iqbalun inabatun la tarkun mahbun. Et donc à partir de là, l'homme qui va revenir et qui va donc délaisser son dham, qui va donc délaisser ce qu'il faisait comme péché, lorsqu'il délaisse cela et qu'il ne revient pas à Allah Azzawajal, et qu'il ne revient pas donc en demandant pardon à Allah Azzawajal, il délaisse tout simplement ce péché là est-ce que ça va être considéré comme une tawbah? Et qu'il ne revient pas donc de par son cœur, repentant à Allah Azzawajal, en demandant le pardon de par son cœur, de par sa langue, de par son corps, est-ce que ça va être considéré comme une tawbah? Alors non. On voit bien qu'il va falloir ici l'acte, cet acte du cœur, cet acte de la langue, cet acte également des membres. Donc on voit bien que at-tawbah, que le repentir, c'est en réalité revenir à Allah Azza wa Jal. Yarujur wa iqbal, et donc se présenter, subhanahu wa ta'ala, se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec un cœur qui va être ici pur, en demandant le pardon. Wa inabatun la tarkun mahd, et ce n'est donc pas un simple délaissement. Ça aurait été un simple délaissement, ça n'aurait pas été considéré en réalité comme une véritable et comme une tauba, c'est-à-dire donc comme un repentir. Regardez également ce que va nous dire Ibn Qayyim, et encore ce point d'argumentation, et qui va être parmi les derniers points que l'on va citer pour terminer donc cette question, où Ibn Qayyim donc a développé. Il nous dit أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد. أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد. C'est-à-dire que si on délaisse ce qui nous a été rendu obligatoire, alors en réalité la personne va délaisser. Il va perdre donc cette vie qui va être demandée, cette véritable vie. Et c'est celle qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans son Coran. وهي التي قال تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ça c'est في سورة الأنفال, et c'est le verset 24. Donc ici Allah Azza wa Jal, il fait un appel aux croyants. يا أيها الذين آمنوا, oh vous qui avez cru, استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. Répondez à Allah et répondez à son messager pour et lorsqu'il vous appelle à ce qui vous lima yuhyikum, à ce qui vous donne donc la vraie vie, à ce qui vous procure cette véritable vie, la véritable vie, la vie de l'iman, la vie de la foi. Donc on voit ici qu'il y a un istijab. On voit ici donc qu'il y a une réponse à un appel, et que cette réponse, comment elle se concrétise? Elle va se concrétiser bifir al-ma'murat, elle va se concrétiser par l'accomplissement de ce qui est obligatoire. C'est comme ça qu'on va avoir et qu'on va accéder à cette véritable vie. Lima yuhyikum, cette véritable vie. Et également Allah Azza wa Jal, il nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Ça c'est fi surat al-An'am, c'est le verset 22. Également ici, Allah Azza wa Jalla nous donne un exemple. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا, celui donc qui est mort, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, et donc nous avons fait revivre. Que nous avons fait revivre. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, et qu'on a donc, on lui a placé donc une lumière. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, et de par cette lumière donc, il marche autour des gens, auprès des gens. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, comme celui qui est dans les ténèbres. On voit ici qu'il y a l'Ihya. On voit ici donc Allah Azza wa Jalla, il fait revivre une personne qui était en réalité morte. Cette mort du cœur, khali min al-iman, donc dénuée de toute foi, et qu'Allah Azza wa Jalla donc lui a donné, l'a fait revivre, lui a donné donc cette nour, lui a donné donc cette lumière, avec lequel donc il va marcher. Il est comme celui donc qui vit et qui est donc fadhulumat, qui est dans les ténèbres. Regardez donc cet exemple qui va nous être donné par Allah Azza wa Jalla. Et il concerne celui en réalité qui a acquis cette nour, cette lumière-là, et qui a donc acquis cette renaissance, de par quoi ? Bifi'l al-ma'murat, de par l'accomplissement de ce qui est obligatoire. Wa qala fi haqq al-kuffar, également Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le droit des mécréants, amwatun ghayru ahya. Allah Azza wa Jalla, il les a considérés ici dans son Coran comme des morts. Amwatun ghayru ahya, des morts, et Allah Azza wa Jalla insiste, ghayru ahya, qui ne sont pas vivants, des morts qui ne sont pas vivants. Donc ici, regardez cette insistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous prouver donc l'état de ces kuffars. Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas, les kuffars, les mécréants, ils n'ont pas fait ce qui était demandé par Allah Azza wa Jalla. Avant toute chose, ils n'ont pas fait ce qui était demandé par Allah Azza wa Jalla. Ce n'a pas été la question, ils ont fait ce qui était interdit. Non, c'est comme on l'a vu déjà auparavant, comme on l'a expliqué dans le Qayyim, parce qu'ils ont, ils n'ont pas fait ce qu'Allah leur a demandé, comme concrétisation du tawhid, etc. Et comme il a dit également, subhanahu wa ta'ala, innaka la tusmi'u al-mauta, innaka la tusmi'u al-mauta. Et donc, innaka, en s'adressant à son prophète, Allah Azza wa Jalla yaqul innaka la tusmi'u al-mauta, tu ne peux faire entendre celui qui est mort, celui qui a le cœur qui est mort, qui n'entend plus l'appel, l'appel du tawhid, l'appel de la vraie vie, l'appel du cœur, tu ne peux pas lui le faire entendre si Allah Azza wa Jalla l'a fait mourir, subhana. Et c'est pour ça qu'à partir de là, Ibn al-Qayyim, après avoir rappelé ces versets là il va nous dire, wa amma al-mani'u an fa idha wujida fa ghayatu an yujada al-marad. Il nous dit que si la personne qui en réalité lui a accompli ce qui était obligatoire et qui par là a fait revivre ce cœur qui lui a donné sa vraie vie et qu'il a acquéri cette lumière, cette personne-là, si elle est tombée dans le péché et elle a fait ce qui était interdit parfois, alors à ce moment-là, c'est-à-dire, au pire de tout cela, c'est qu'on trouvera donc cette personne qui va être malade, tout en étant vivante, mais qui va être malade. Et ensuite, il nous dit, c'est-à-dire donc une vie, cette véritable vie, avec cette maladie, ou avec ces maladies, qui ont été donc le résultat du fait qu'il a accompli ce qui était interdit, c'est encore mieux, c'est bien mieux que la mort en elle-même, la mort du cœur. Et cette mort-là, qui était le résultat de ceux qui ont délaissé ce qui était obligatoire parmi les kuffars, wal mushrikin, wallah al-musta'an. Et également ici, il va faire, Ibn al-Qayyim, une supposition. Il va dire, si une personne venait donc à s'interposer à cette argumentation et qu'il dit wa min al-mani'an ma yujibu al-halak wa huwa ash-shirk, on pourrait dire que par rapport à ce qui rentre dans l'interdiction, il y a ce qui implique al-halak, la perdition, et qui en réalité est shirk, et qui est donc le polythéisme. Donc celui qui va ici accomplir ce qui est une interdiction et qui est la pire des interdictions, le polythéisme. Donc ici c'est bien un accomplissement de ce qui est interdit. Comment il va répondre à cela, Ibn al-Qayyim? Yaqul al-halaku, même s'il y a déjà répondu auparavant, ici à titre d'insistance et de bayan, pour bien donc donner une clairvoyance par rapport à ce sujet. Al-halaku innama hasala bi'adam al-tawhid al-ma'muri bih alladhi bihi al-haya. Falamma fuqida hasala al-halak. Fama halaka illa min 'adami ityanihi bil-ma'muri bih. Donc on voit ici qu'il va répondre Ibn Qayyim, il va dire hadha al-halak, c'est-à-dire cette perdition, et qui a été par le fait que la personne est tombée dans le shirk et est tombée dans le polythéisme et qu'elle a donc accompli ce qui était interdit. Il va nous dire elle est advenue pourquoi? Bi'adam al-tawhid, elle est advenue de par l'absence donc du tawhid, de par l'absence de l'unicité. Car une personne ne peut être muwahhid ou mushrik. Personne ne peut être donc un muwahhid, une personne qui concrétise le tawhid et en même temps un polythéiste. C'est pas possible. Donc il nous dit ce shirk là, il est advenu au moment où il y a eu l'absence du tawhid, qui est lui une obligation. Donc on voit bien ici que c'est revenu à la base, comme l'avait déjà expliqué Ibn Qayyim, au délaissement de ce qui est obligatoire. Et qui est bien entendu bihi al-haya, alladhi bihi al-haya, et qui est bien entendu celui qui va donner la vraie vie, qui est donc at-tawhid, qui est donc l'unicité. Falamma fuqid hasala al-halak. Donc lorsque cela a été perdu, lorsqu'on a donc délaissé cette obligation qui est tawhid, alors il est advenu cette perdition. Fama halaka illa min adami ityani bil ma'muri bih. Et donc il était dans la perdition, il est tombé dans le shirk, il a fait ce shirk là lorsqu'il n'a pas concrétisé et lorsqu'il n'a pas accompli donc ce tawhid. C'est comme ça qu'il va répondre Ibn Qayyim. C'est comme ça réellement qu'on va comprendre cette question là et ensuite la dernière question, ou plutôt parfois la dernière argumentation qui est également importante, qui va nous faire comprendre également un point de croyance et qui va être la dernière argumentation de Ibn al-Qayyim pour cette question là et qui est donc que délaisser et ne pas accomplir une obligation, c'est bel et bien pire que faire ce qui est interdit, illicite. Yaqul annama yuhibbuhu fa huwa muta'alliqun bi sifatihi wa ma yakrahu min al-manihati fa muta'alliqun bi maf'ulatihi. Il nous dit Ibn al-Qayyim que ce qu'il aime Allah azawajal, c'est en réalité raccroché et en relation avec ses attributs. Ce qu'il aime Allah azawajal, c'est en réalité raccroché en relation avec ses attributs. Muta'alliqun bi sifati. Wa ma yakrahu min al-manihat, et ce qu'il déteste donc comme interdiction, fa muta'alliqun bi maf'ulatihi. C'est ici raccroché et en relation avec ce qui est fait, al-maf'ulat, ce qui est donc accompli. Ce qui est accompli, ce qui a été fait. Et il nous dit wa hadha wajhun daqiqun yahtaju ila bayan fanaqul. Il nous dit qu'en réalité ça c'est un aspect qui est très précis. Et donc il va nous expliquer ce qu'il veut dire par là Ibn al-Qayyim à partir de ses prochaines paroles. Il nous dit donc que l'interdiction c'est en réalité un mal. Wa tufdi ila shurur. Wa al-ma'murat khayrun wa tufdi ila al-khayrat. Alors que ce qui est obligatoire c'est un bien, et que ce bien là va nous amener encore à d'autres biens, qui va nous conduire à d'autres biens. Et que le bien il est dans ses mains, il est dans ses deux mains subhanahu wa ta'ala. Alors que le mal n'est pas annexé à lui, le mal il n'est pas annexé à lui. Et ça c'est une question de croyance qu'on a déjà traité, que le bien al-khayr biyadei, que le bien il est dans les mains d'Allah Azzawajal. Alors que al-shar, le mal, il n'est pas annexé à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْخُلْ فِي صِفَاتِي وَلَا فِي أَفْعَلِي وَلَا فِي أَسْمَعِي. Le mal, al-shar, ne rentre pas dans les attributs d'Allah, ne rentre pas dans ses actes et ne rentre pas dans ses noms, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a dit وَالشَّرُّ لِيسَ إِلَيْهِ, il y a en réalité un hadith qui est authentique par rapport à cela. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, un hadith Ali radiallahu ta'ala an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wa sharru laysa ilayk, c'est-à-dire le mal n'est pas annexé à toi, ne revient pas à toi. Wa sharru laysa ilayk, n'est pas annexé à toi. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il va nous dire Ibn Qayyim ? وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمَفْعُولَاتِ. Et en réalité, ce mal-là, il se trouve donc dans ce qui a été fait, donc dans ces créatures même. Dans les créatures, le maqsoud ici, donc, al-maf'ulat, donc c'est dans ces créatures. Elle se trouve donc dans ces créatures, ce mal-là. مَعَ أَنَّهُ شَرٌّ بِالْإِضَافَةِ وَالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ. Et donc, c'est un mal par rapport donc au serviteur. وَإِلَّا مِنْ حَيْثُ إِضَافَةُ وَنِسْبَةُ إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ فَلَيْسَ بِشَرٍّ مِنْ هَذِهِ الْجِئَةِ. Par contre, par rapport donc au créateur, et par rapport donc à l'annexion qui est faite au créateur, ce n'est pas en réalité un mal de cet aspect-là. Bien au contraire, c'est un bien. C'est un bien par rapport à la personne. C'est un bien donc par rapport à l'abd. Ensuite, il va nous dire فَغَايَةُ وَارْتِكَابِ الْمَنْهِ أَنْ يُوْجِبَ شَرًّا بِالْإِضَافَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهُ فِي نَفْسِ لِيْسَ بِالشَّرِّ. C'est-à-dire que le résultat de cela, lorsque la personne, elle va faire ce qui est une interdiction, et que cette interdiction, elle va donc impliquer ce qui est mal, en plus de ce qui va être donc annexé ici au abd, qui va être annexé donc au serviteur, comme mal. Alors qu'en lui-même, cette chose en lui-même ne va pas être considérée ici comme un mal. Donc à partir de là, Ibn al-Qayyim va nous dire que celui qui va donc délaisser ce qui est obligatoire et qui va donc perdre à partir de là tout ce bien qui l'aurait ramené également à d'autres biens, et qui va donc advenir à partir de là son contraire, min shar, comme mal, tayyib, comme on l'a vu, celui qui va délaisser le tawhid, il va automatiquement tomber, il va donc tomber fil halak, dans la perdition. Celui qui va délaisser l'iman, il va tomber également dans la perdition. Il va arriver donc à ce moment-là son contraire. C'est pour ça que il nous dit à chaque fois, et plus ce qui est obligatoire est aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, et plus donc il va avoir un mal qui va advenir lorsqu'on le délaisse, lorsqu'on délaisse donc cette obligation. Et à titre d'exemple, comme nous dit Ibn al-Qayyim, qu'at-tawhid wal iman. Donc ici, et en résumé par rapport à ce dernier point, cette dernière argumentation qu'a cité Ibn al-Qayyim, que la personne, parce qu'elle va délaisser ce bien, qu'elle va délaisser donc cette obligation, elle va délaisser donc tout simplement ce bien qu'Allah Azza wa Jal a aimé, qu'Allah Azza wa Jal donc a aimé. Et à partir de là, il va advenir ce mal, ash-shar, qui va donc ici apparaître du fait qu'il a délaissé hadha al-khair, comme l'exemple du tawhid et comme l'exemple de al-iman. طيب ينودي اساسا مهم يقول ان فعل المامور يقتضي ترك المنهي عنه اذا فعل على وجه من الاخلاص والمتابعه والنصح لله فيه. قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ومجرد الترك المنهي لا يقتضي فعل المامور ولا يستلزمه. ينودي من القيم ici que également pour prouver que délaisser ce qui est obligatoire c'est pire que de faire ce qui est interdit, que lorsque la personne elle fait ce qui est obligatoire, et bien entendu qu'elle va le faire suivant ou avec ikhlas, c'est-à-dire donc avec une intention qui est pure pour Allah Azza wa Jal, ou al-mutaba'a, et également qu'elle va le faire suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans tomber dans l'innovation, etc., tout ce qui est en contraire à la sunna, ou nusru lillah, et qu'il veut donc par là Allah Azza wa Jal, et qu'il veut donc aller dans le sens de cette sharia, de cette loi qu'Allah Azza wa Jal a mis en place, alors à partir de là, cela va avoir pour conséquence et cela va impliquer le délaissement en réalité même de ce qui est interdit. Et la preuve de cela, c'est le verset même qui nous a cité. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire donc que là, la prière, donc cette prière-là, lorsqu'elle va être faite avec ikhlas, avec d'une intention pure, pour Allah subhanahu wa ta'ala, hada wal ikhlas. Donc on voit que c'est également ici une condition d'acceptation de l'acte. Et la deuxième condition ici, elle mutaba'a. Et que cette prière, elle est bel et bien faite suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'on ait annexé des bid'a'a, des innovations, etc. Alors, cette prière-là, tanha anil fahsha'i wal munkar. Elle va tout simplement empêcher de tomber dans ce qui est de la turpitude, dans ce qui est du mal. Donc on voit également ici donc le fait de délaisser ce qui va être obligatoire, on ne pourra pas à ce moment-là délaisser ce qui est interdit. Et on ne pourra pas donc avoir cet intérêt que l'on va trouver dans l'accomplissement de l'obligation. C'est pour ça qu'il nous dit le shir, que tout simplement délaisser ce qui est obligatoire, uniquement, c'est-à-dire donc délaisser ce qui est obligatoire uniquement, sans rien d'autre, cela ne va pas nous impliquer ou ne va pas nous amener à faire ce qui est obligatoire. Et donc cela ne l'implique pas. Contrairement à ce qui est de l'acte de l'obligation, de ce qui est obligatoire. Donc voilà pour ce qui est de cette question, et voilà pour ce qui est de l'argumentation. Et on a vu donc à travers cette argumentation, on a pu profiter de beaucoup de points qui étaient très intéressants à connaître, que ce soit par rapport à la croyance, que ce soit par rapport à certaines bases de la religion. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.